Et en l'occurrence, ici, les destinataires, c'était les responsables de l'Église, l'Ecclésia, l'assemblée de la grande ville de Corinthe, une ville située au nord du Péloponnèse, dans sa situation de l'année 50 au début de notre ère. Cette église, il l'avait fondée lors d'un voyage missionnaire. Et il y avait passé, dit-on, 18 mois. Et puis, visiblement, après son départ, des tensions se sont mises à agiter cette église, qui se trouvait confrontée à des problèmes de mœurs, des problèmes de tribunaux, des problèmes de normalisation de la pratique. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, ou pas, de manger de la viande, une viande qui a été sacrifiée aux idoles païennes? Des problèmes généraux d'unité, divers problèmes pour cette ecclésia, cette église, composée de fraîchement convertis, au milieu d'une grande ville, avec toutes ses tentations et ses charmes, et c'est évoqué dans la lettre elle-même, ses prostituées, qui avaient pignon sur rue à l'époque. Paul dicte. Et c'est pour ça que parfois, souvent, son discours est touffu. On le sent souvent emporté dans ses lettres par une forme d'enthousiasme qui va appuyer sur le fil de son discours et tellement appuyé qu'il va parfois le rompre. Alors que formé aux meilleures écoles rabbiniques, Paul pourrait écrire d'une façon ordonnée, ce qu'il fait d'ailleurs souvent. Là, ici, aujourd'hui, on dirait qu'il s'emporte, pas de colère, mais d'une forme d'enthousiasme. Sans doute parce qu'il aurait été critiqué sur sa sincérité, sur un prétendu intéressement qu'il aurait. Tout à coup, il se met à se défendre lui-même, à se justifier. J'imagine un peu la situation de celui qui prend des notes quand Paul dicte, et qui peut-être se retourne et se demande si c'est lui, le scribe, qui est visé par ce qui s'apparente à des sautes d'humeur. Mais non, évidemment, Paul parle, il s'enthousiasme et se révèle à lui-même dans l'instant où il parle. On dirait qu'il a besoin de parler, de s'adresser à des destinataires, donc, de s'adresser pour savoir qui il est, ce qu'il fait. Mais n'est-ce pas le propre de tout écrivain? Ce qui le motive, ce n'est pas l'argent, non et non. Ni la gloire, ni le pouvoir. Et même s'il le nie apparemment, il n'arrive pas à cacher sa profonde fierté d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, autrement traduit l'annonce heureuse, et de le faire gratuitement, insiste-t-il. Pour lui, dit-il, ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Alors, de quelle nature est-elle, cette nécessité? Paul décrit ici que cet évangile, dont il a été un jour le bénéficiaire, et qu'il a totalement bouleversé, lisez les récits de sa captation, que cet évangile n'est pas un message informatif, n'est pas un concept ou une formule, même si pour être annoncé, pour que cet évangile prenne une consistance et un poids, ils doivent utiliser des mots, des concepts et même beaucoup des ressources de ce qui était à l'époque, de la rhétorique, de la philosophie, de la politique, même si pour être entendu cet évangile est obligé de s'appuyer sur les phrases de la loi, de la Torah, même quand on la critique. Avant tout, l'Évangile, c'est un feu qui un jour s'est mis à brûler et qui nous a éclairés intérieurement et qui doit, pour éviter qu'il s'éteigne, être propagé. Mais ce qu'on percevra de cet évangile, s'il est véritablement annoncé, c'est son incandescence. Et Paul est incandescent, il brûle. Et au passage, ce feu en lui a consumé toutes ses anciennes identités. Emporté par cette bonne nouvelle, il n'a plus aucun attachement à ce qui le caractérisait avant. Si bien que, comme il le raconte, et comme vous l'avez sans doute vraiment entendu, il a beaucoup de facilité à devenir, non pas à faire semblant, mais à véritablement devenir celui à qui il s'adresse. Il raconte qu'il peut devenir juif avec le juif. L'étonnant, entre parenthèses, c'est qu'il est juif, d'un autre point de vue. Mais pour lui, désormais, sa véritable identité est ailleurs. Elle est en Dieu. Il est faible avec le faible. Il est sans loi avec les sans loi. Il se fait tout à tous, non pas comme un candidat dans une campagne électorale qui peut accomplir des prouesses de mimétisme, mais parce que pour lui, tout ce qui était et ce qu'il appelle par ailleurs le vieil homme, tout ce qu'il était, a été entièrement consumé par le feu de l'Évangile. Et pour autant, il ne s'est pas retrouvé vide, mais il se retrouve plein, plein d'Évangile, plein d'enthousiasme, empli par la force de Dieu et par cette bonne nouvelle qui va l'animer jusqu'à la fin de ses jours et qui en fera le théologien qui a le plus influencé les églises et la théologie depuis toujours et, par exemple, qui a facilité la réforme protestante d'une façon assez énorme. À cause de son incandescence, à cause de sa sincérité, à cause de la nécessité qu'il avait d'annoncer l'Évangile à tout le monde, mais aussi grâce à tous ceux et celles qui, de son assistant, des messagers, des copistes, de manuscrits et même des prédicateurs, tout cela qui ont transmis la flamme. Alors après avoir essayé de ressentir un peu ce moment d'enthousiasme qui brille dans ce passage, il nous faut poser quelques questions. La première, qu'est-ce qu'on en fait, nous, de l'Évangile, de cette bonne nouvelle ? Est-elle pour nous ce feu qui nous brûle au point de ne pas être capable de ne pas la partager ? Oui, j'aime bien les doubles négations, même si je me perds moi-même dedans. Et en plus, je vais dire non. Pour la plupart d'entre nous, cet évangile qui anime Paul nous reste vague et obscur. Naguère, on ne se posait pas trop de questions sur sa nature. On était invité à réciter une confession de foi et on savait par ailleurs qu'il fallait autant que possible ne pas se conduire comme un malfaisant auprès de nos prochains. Et voilà. Et puis après, on s'est mis à questionner quand même toutes ces formules des confessions de foi que nos ancêtres répétaient sans trop se poser de questions parce que finalement, autour d'eux, tout le monde était officiellement chrétien et c'était un peu facile pour eux, ce qui n'est plus notre cas et nos formules semblent être de moins en moins attachées à quelque chose de consistant. Dans l'état où nous sommes, nous qui sommes quand même ici parce qu'on en ressent bien une forme de nécessité, il est important que nous nous soyons rappelés ce qu'est l'Évangile selon Paul, une force reçue qu'on ne peut que devoir partager. Mais attention, il n'y a pas de code spécifique pour ce partage. Ce n'est pas de méthode ni de formule toute faite qu'il s'agit. Même si certains le croient. Non, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule. Il y a d'abord le fait d'admettre d'avoir reçu soi-même cet évangile, s'apercevoir que c'est une force probablement assoupie qu'il s'agirait de réveiller, ne serait-ce que pour percevoir que ce n'était pas finalement une illusion, et ensuite en ressentir le bonheur. C'est censé être une bonne nouvelle, en ressentir le bonheur, l'incandescence et aussi, finalement, l'envie de partager cette bonne nouvelle. Et pas du tout intimidé, car ce partage se fera avec nos propres inflexions, nos propres personnalités ou talents. Ce n'est pas extrêmement complexe de se figurer tout ça. Imaginons que vous recevez une bonne nouvelle, ça doit vous arriver. Par exemple, mais ce n'est pas la situation de tous ici, évidemment, mais il fallait que j'en choisisse une, donc j'ai pris cet exemple. Par exemple, un de vos enfants a réussi le concours de ses rêves. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, on va dire. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde ici, évidemment. J'espère finalement que ça ne concerne personne, comme ça c'est vraiment un exemple pour tout le monde. Votre premier réflexe sera l'envie de partager cette nouvelle. Vous la partagerez avec vos plus proches et vous tenterez peut-être d'élargir le cercle de l'annonce. Et puis, confronté à la dure réalité qui fait que beaucoup de vos semi-proches ne se sentent pas vraiment concernés par votre vie, et vous étant retrouvé plusieurs fois confronté à une série de sourires malgré les masques crispés, du style « je suis content pour toi », vous allez arrêter d'annoncer cette bonne nouvelle qui a donc vite atteint sa date de péremption. L'Évangile, bonne nouvelle en grec, participe du même mouvement et lui aussi risque de se confronter à de l'indifférence polie ou à de l'hostilité, bien sûr. Mais d'abord, on va dire que cette bonne nouvelle n'est pas faite pour que les gens se réjouissent pour vous. Du style, c'est bien pour toi d'avoir trouvé un peu de sérénité dans ton église, là. Hein? Je sentais vraiment, et là, je sens que tu as trouvé une voie qui te calme un peu. Hein? Ça doit te faire du bien. En fait, tu vois, je t'envie. En fait, tu as de la chance. Mais excuse-moi, là, je n'ai pas le temps. J'ai mon cours de tennis en ligne. Non, cette bonne nouvelle est faite pour que les gens à qui vous l'annoncez se réjouissent avec vous. Car cette bonne nouvelle est aussi pour eux. Ce n'est pas votre bonne nouvelle dont vous allez faire part. Mais alors pourquoi n'annonce-t-on pas cette bonne nouvelle censée être, comme pour Paul, un feu qui nous rend incandescents et nous obligerait à la propagation ? Sans doute, et c'est celui qui se prétend intellectuel qui vous parle, sans doute, parce qu'on se pose beaucoup trop de questions sur les modalités de l'annonce et pas assez de questions sur la nature même de cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'Évangile ? Une force. L'avons-nous reçu ? Oui, non, peut-être. Sinon, l'avons-nous demandé ? Si oui, nous la sommes-nous révélée ? En avons-nous eu honte ? Avons-nous cru que nous n'aurions pas les bons mots pour l'exprimer parce que nous n'en serions pas des spécialistes ? En avons-nous eu finalement besoin ? Avons-nous besoin de nous révéler que nous avons besoin de la bonne nouvelle ? Et si nous nous sommes révélés ce besoin, et si nous avons découvert que cet évangile était en nous, comment pourrions-nous alors ne pas le partager ? Amen.